Joël Giraud, bonjour.
Bonjour.
Merci de m'accueillir chez vous, du côté de l'Argentière, l'ABC. C'est un retraité de la politique actif que l'on retrouve chez lui.
Un retraité réel. Actif, on verra dans les semaines qui viennent si je m'ennuie un peu trop à la retraite, mais auquel cas je tâcherai de trouver des activités, mais pas forcément des activités dans le domaine politique.
C'en est fini, la politique ?
Oui, c'en est fini, très honnêtement, parce que, bon, je crois que d'abord, j'avais déjà annoncé que j'envisageais de ne pas rester et de m'accrocher.
C'était votre dernier mandat.
Je l'avais dit très clairement. Je souhaitais d'ailleurs que le dernier mandat soit celui qui s'achevait en 2022. Le président de la République m'avait demandé de me représenter. Je l'ai fait. Mais bon, là, franchement, avec la dissolution, étant donné que j'ai en plus atteint largement l'âge de la retraite, y compris avec la nouvelle réforme, j'ai pensé qu'il était nécessaire de mettre un terme. Bon, puis en plus, les cimetières, vous savez, sont remplis d'irremplaçables, donc tout va bien. On peut aussi vivre sa vie. Quand on a consacré sa vie à la chose publique personnelle pendant très longtemps, il arrive que la vie personnelle soit passée derrière. Et bien, j'ai décidé que la vie personnelle allait passer devant.
Ça vous a fait mal, cette dissolution de l'Assemblée nationale ? Vous l'avez comprise ?
Non, je ne l'ai toujours pas comprise.
Toujours pas.
Je ne l'ai toujours pas comprise. Je continue à croire que quand on est président de la République, on est là pour protéger les institutions. Et qu'une dissolution était tout sauf protecteur des institutions. Alors, honnêtement, le contexte dans lequel la dissolution a été décidée était un contexte où on donnait les clés au Front National, enfin au Rassemblement National, de l'intégralité de la maison Assemblée nationale.
Ça n'a pas été le cas.
Ça n'a pas
été
le cas.
C'est ce qu'espérait peut-être Emmanuel Macron d'un côté de dire pendant quelques années encore on va passer au Rassemblement National, on verra 2027.
On va passer, mais je crois que c'était le plus mauvais moment pour le faire. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation politique qui est quand même très difficile. La difficulté à trouver un Premier ministre ou une Première ministre est quand même quelque chose d'assez étonnant. Le temps qui est mis aussi pour les discussions est aussi étonnant. Alors, on compare souvent avec la Belgique ou avec l'Italie en disant oh, « vous savez, c'est pas grave ». Moi, j'estime si que c'est grave parce que tout simplement, enfin, nous ne sommes pas dans la même situation dans ces régions. Il suffit que les régions fonctionnent en Italie ou en Belgique ou d'ailleurs en Allemagne pour qu'on puisse se permettre d'attendre pour que l'État fédéral puisse avoir un patron. Là, ça donne l'impression que à la fois, le Parlement, ça ne sert pas à grand-chose. À la fois, le gouvernement et le Premier ministre, ça ne sert pas à grand-chose. Et comme moi, j'ai toujours été quand même d'un respect absolu pour les institutions et quels que soient les gens qui soient peut-être des institutions. Vous savez, je me rappelle de Nicolas Sarkozy un jour, lors d'une manifestation, qui était une manifestation à la suite de l'assassinat d'une vieille dame juive, qui me dit, je lui ai dit « Président, venez par ici, il y a un moyen plus rapide pour aller jusqu'à la tribune », qui me regarde et qui me dit « Vous êtes bien le dernier à m'appeler comme ça ». Je lui dis « Oui, mais je suis très respectueux des institutions ». Il me rajoute « Surtout que vous n'avez dû jamais voter pour moi ». Je lui dis « En effet, Président !» Voilà, donc j'ai trouvé que c'était un pari, un coup de poker, et qu'on ne joue pas au poker avec les institutions de la République française.
Voilà, Il a perdu ce jeu, ce coup de poker ?
Bah, écoutez, je pense que oui, parce que là, on va se retrouver dans une situation où je ne crois pas que l'homme ou la femme idéale existe, ou alors c'est quelque chose qui est très, très curieux, avec un gouvernement technique, mais qui en France ne peut pas exister.
Là, il doit encore ressembler à quoi, ce gouvernement, d'ailleurs ?
Eh bien, écoutez, j'en sais rien.
Parce que, justement, il n'y a pas de majorité absolue.
J'en sais rien, parce que ça va être d'une fragilité absolue. Vous savez, c'est un peu comme dans la vie publique des communes, des intercommunalités. Quand vous avez une intercommunalité très fragile, avec des majorités dont on ne sait pas ce qu'elles vont être, ça ne fait pas avancer le territoire. Et là, le territoire, ça s'appelle la France. Donc, je l'ai dit clairement, ce monde n'est plus le mien. Sans doute que ça plaît à certaines personnes de faire le buzz pendant un an en attendant de nouvelles élections. Moi, j'aime construire dans la stabilité, j'aime construire sur des objectifs. J'ai toujours derrière moi l'idée que le département dont je suis issu, c'est-à-dire les Hautes-Alpes, mais également, d'une manière générale, la montagne française, puisse avoir, son droit à la différence telle qu'ils l'ont prévu les textes. Donc, à partir de là, on est dans une situation qui est tellement compliquée que, je veux bien en être spectateur. Je veux bien que des personnes viennent me consulter ou me demandent des choses. Ça arrive à certaines politiques, ça arrive aussi à des journalistes de la presse nationale, puisque au contraire de la presse régionale, ces choses-là sont transformées souvent en polémiques inutiles. Moi, je ne les transforme pas en polémique. Je constate simplement que voilà, c'était mon monde politique. Ce monde politique n'existe plus et que j'ai voulu que vous voyez, mon chat d'ailleurs proteste lui aussi.
Lui aussi. Oui.
Et je constate simplement que ce monde politique qui devient de plus en plus un monde politique un petit peu factice, où on ne fait pas ce qu'on dit et où on affiche, je dirais, des choses sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est vraiment pas mon style. Voilà, donc j'en prends acte, mais très honnêtement, sans amertume. Hein,
vous n'êtes pas déçu d'Emmanuel Macron ?
Sur ce plan-là, si. Si, je veux dire, en 2016, je l'avais dit quand j'ai rallié Emmanuel Macron, je me suis dit, il y a enfin quelqu'un qui comprend que le dépassement en politique est important. Parce que moi, je l'ai toujours pratiqué. Alors, j'ai pas de... Moi, je considère que quelqu'un qui est élu a le droit au respect, quel que soit, j'allais dire, le parti dont il est issu. Mmh. Bon, ça ne veut pas dire que je n'ai pas des opinions, que je ne combattrai pas certaines opinions. Mais pour autant, je respecte tout le monde. J'ai toujours respecté les gens, j'ai toujours voulu travailler avec les gens pour le bénéfice plus d'un territoire et des citoyens qu'autre chose. Voilà, je constate que c'est un monde qui fout le camp. J'espère qu'on en reviendra un jour. Et sur ce plan-là, c'est vrai que je suis déçu du deuxième quinquennat du président de la République. Je ne le cache pas. J'avais qualifié la majorité qui sortait, enfin du moins la majorité du gouvernement du deuxième quinquennat, de trop parisien. Et je l'avais dit aussi, de trop à droite, puisque quand on marche sur deux jambes, on marche sur deux jambes, on ne marche pas sur une seule jambe. Voilà, donc je pense que tout cela a conduit à la situation politique dans laquelle on est. Et j'en viens à me demander s'il ne fallait pas garder le septennat, mais un seul septennat, pour éviter justement qu'il y ait ces questions de reconduction de président de la République. Le septennat, à mon avis, est une bonne chose. Je rappellerai une chose, c'est qu'à l'époque où le quinquennat a été voulu par Chirac, mais également par Lionel Jospin, puisque Lionel Jospin était tout à fait d'accord, je faisais partie des élus qui avaient proposé le boycottage des urnes, ce qui avait fortement déplu à l'époque, parce que je pensais qu'un seul mandat, c'était bien. Un mandat de 7 ans, ça permettait de transcender, je dirais, le quinquennat qui correspondait aux législatives, parce qu'au bout d'un moment, vous n'êtes plus président de la République, vous êtes chef de la majorité. D'ailleurs, c'est prouvé aujourd'hui, puisque le président de la République a eu des mots un peu désagréables vis-à-vis de Gabriel Attal, qui lui a fait le job, de manière très claire, a tenté de sauver les meubles dans une situation où il n'a pas été consulté, ou du moins son opinion n'a jamais été prise en compte, puisqu'il ne souhaitait pas la dissolution.
Bon, c'est souvent ce qu'on a reproché à Emmanuel Macron, d'avoir une gestion jupitérienne.
Écoutez, oui, alors moi je constate simplement que quand j'étais rapporteur général du budget, tel n'avait pas été le cas, puisque le président de la République m'avait laissé assez libre de mes choix, et que quand il avait fait des choix que j'estimais inadmissibles, j'ai aussi... J'ai rué dans les brancards. Enfin voilà, je me rappelle de cette histoire de fou de la taxation de l'huile de palme qu'on devait complètement descendre de façon à ce que l'huile de palme soit quelque chose qui ait une fiscalité quasi normale, alors que ce n'est pas un produit normal. Je m'étais vraiment bagarré, j'avais provoqué une réunion en pleine nuit de la commission des finances pour réouvrir le débat à l'Assemblée, et j'avais gagné. Et j'avais gagné sans que le chat est en train de sauter par-dessus les micros. Je ne sais pas ce qui va se passer dans 5 minutes au bout de l'interview, mais j'ai un chat qui est un peu cabotin. C'est peut-être lui qui devrait faire de la politique.
Exactement.
D'ailleurs. Voilà, mais à 16 ans, un chat, quand même, c'est difficile de faire de la politique. Donc voilà, moi, je suis déçu de ce que je croyais être, ce qui est l'âme des radicaux d'une manière générale, qui ont toujours considéré que de droite ou de gauche, si une idée est bonne, on se fiche de savoir d'où elle vient. Je crois que le président a raté le coche lors de ce deuxième quinquennat. On aurait pu avoir un apaisement des Français, mais les présidents ratent tous leur deuxième mandat. Jacques Chirac avait un mandat, je me souviens de ça, parce que je sais partie des gens qui avaient pris des procurations pour que on n'ait pas une famille Le Pen à la tête de l'État. J'avais jamais pris autant de procurations de ma vie qu'à cette époque-là, en 2002, absolument. Bon, Jacques Chirac a raté son deuxième quinquennat parce qu'il ne l'a pas placé sous l'aune de l'unité nationale. Et là, j'ai les pires craintes. Enfin, c'est très dur quand vous avez quelque chose qui ressemble à une fin de règne qui a commencé en début de règne. Donc voilà, moi j'ai toujours été libre de mes propos.
La France, elle va s'en remettre.
La France est un pays qui est un grand pays. Donc la France va s'en remettre. Mais la France va s'en remettre en étant une nation, je dirais, banalisée par rapport aux autres en Europe, alors qu'on était une nation leader. Mais c'est l'apanage aussi, de tous les pays d'Europe en ce moment. Voilà.
D'autant qu'on parle de plus en plus de la possibilité d'être mis sous tutelle avec ce déficit public qui augmente aujourd'hui. Ça fait quand même, en effet, moins reluisant pour l'image de la France.
Bien sûr, oui. Et puis bon, de la même façon que l'annonce du déficit à 5,6 qui a été faite par Bruno Le Maire en accusant les collectivités locales. Bon, écoutez, moi, je connais bien les collectivités locales, je suis issu du monde des collectivités locales. Bon, alors, il y a effectivement peut-être des grandes villes pour qui les investissements sont un peu, on va dire, superfétatoires, pour ne pas dire plus.
Les petites collectivités n'ont pas piqué dans la caisse.
D'une manière générale. Enfin, regardez ce qui s'est passé. Prenons l'exemple d'ici, avec ce qui s'est passé avec les inondations et autres. Bon, les collectivités attendent surtout de savoir la somme que va mettre l'État sur les différents programmes, que ce soit les programmes du conseil départemental ou les programmes des différentes collectivités, pour pouvoir passer cet épisode qui a été absolument dramatique. Voilà. Moi, je ne vois pas des maires dispendieux. On peut toujours considérer qu'un projet est dispendieux. Mais des maires dispendieux, vous savez, c'est surtout sur le fonctionnement qu'on voit les choses, plus que sur l'investissement. Tout le monde, quand on voit un gros investissement, on se dit « Mon Dieu, quelle horreur !» Ben non, pas forcément quelle horreur. C'est sur le fonctionnement. Quand je vois les effectifs de certaines très grandes collectivités locales et que je vois que les petites communes ont toujours les mêmes difficultés, alors qu'en tant que ministre, je rappelle quand même, j'ai fait inverser totalement la problématique des dotations. Et encore cette année, toujours sur la tendance que j'avais voulu, la dotation pour les aménités rurales a encore augmenté de manière spectaculaire dans un département comme les Hautes-Alpes. Enfin, quand Névache, pour le citer, avec les difficultés que peut avoir Madame le maire à gérer un territoire aussi vaste, se voit dotée de 100 000 euros de plus par an, voilà, c'est bien. Mais je sais très bien qu'elle ne va pas les transformer en 12 agents communaux qui, comme dans certaines villes, d'ailleurs, collent aussi des affiches.
Il n'y a pas d'abus dans les collectivités
bien
locales.
Donc je suis inquiet parce que je suis vraiment... quand j'étais rapporteur général des finances, j'ai toujours remis des budgets avec un meilleur équilibre qu'au début en ayant modifié le budget. Parce que l'équilibre, pour moi, c'est important. Quoi. Je veux dire, c'est comme...
Vous êtes inquiet, pourquoi partir de la politique alors ?
Pourquoi j'ai fait de la politique ?
Non, pourquoi partir de la politique ? Pourquoi ne pas continuer finalement ?
Ne pas continuer parce que de toute façon, regardez ce qui se passe sur les deux dernières années. Tous les gens qui, comme moi, essayaient de dire des choses sur les niches fiscales et autres, on se faisait renvoyer dans les 22. Donc bon, tout cela...
Il y a de la frustration.
Tout cela était plus possible. Quoi. C'est pour ça que je dis que le monde a changé. Et je pense qu'un jour, parce qu'il va y avoir des changements politiques majeurs en Europe, y compris avec la montée des droites, ce que j'appelle la montée des droites d'une manière générale, ou du nationalisme, enfin peu importe, une fois cet épisode passé, on va revenir à quelque chose d'un peu plus classique et d'un peu plus raisonnable, je pense.
Mais il faudra passer par le Rassemblement national, notamment.
Je crains qu'il faille passer par des moments de grande difficulté, que ce soit l'extrême gauche ou que ce soit le Rassemblement national, parce que j'avoue que je fais partie des gens qui intimement vont voter pour une chèvre dès lors que je vois de l'extrême droite en face. Maintenant que j'ai vu l'extrême gauche en action, et surtout son côté antisémite que je ne supporterai jamais, surtout son côté flatteur de mouvements, y compris des mouvements anti-LGBT dans des zones notamment de banlieue, enfin c'est une horreur sans nom, quand je vois porter atteinte à l'État laïque, qui est quand même je suis resté radical, je ne suis pas membre de Renaissance, je suis resté radical. Parce que voilà, pour moi, c'est liberté, égalité, fraternité, laïcité. Et quand je vois ce qui se passe à l'heure actuelle de la part de l'extrême gauche, je suis extrêmement inquiet de la même façon. Alors, est-ce que c'est par l'extrême gauche que ça va passer ou est-ce que c'est par l'extrême droite que ça va passer ? Mais je pense qu'il va y avoir des moments un peu difficiles où il va falloir faire le dos rond, où les déficits publics vont encore s'aggraver parce que les programmes de l'un comme de l'autre sont catastrophiques sur le plan d'équilibre des finances publiques. Alors, on me dit que c'est des doxas, que c'est des dogmes, ce qu'on veut, mais il y a un moment où, quand vous êtes un particulier, vous savez bien ce que ça veut dire de dépenser plus que ce qu'on gagne. Voilà, et c'est comme ça que ça marche dans la société, avec effectivement des travers. Vous savez... Je fais partie des gens qui ont fait taxer les GAFA.
Les grands groupes, hein, Google,
les grands
Amazon,
groupes, Amazon, Facebook. Voilà, Facebook. En fait, je fais partie de ces gens qui l'ont, quasiment imposé à Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, après, l'a repris à son compte, mais j'étais arrivé à imposer ça parce que je trouvais que, sur ce plan-là, il y avait une économie qui n'était plus une économie réelle. Donc, soyons très raides, j'allais dire, et très engagés contre l'économie irréelle, et soyons, en revanche, très rigoureux aussi sur l'économie réelle, moyennant quoi le pays pourra vivre globalement mieux, en dehors des slogans et de tout poil.
Dans les prochaines années, quel sera le rôle des deux nouvelles députées issues du Nouveau Front Populaire? Je parle de Marie-Josée Allemand et de Valérie Rossi dans les Hautes-Alpes.
Bah, écoutez, je n'en sais rien à l'heure actuelle, puisque j'ai écouté les expressions publiques, notamment de Marie-Josée Allemand, puisque je l'ai entendu faire des déclarations publiques. Bon, je pense qu'elle va être très proche du territoire en essayant de sauver les meubles du territoire, quoi qu'il arrive. Je n'ai pas entendu de déclaration de la part de Valérie Rossi, j'allais dire, du même tonneau. Bon.
Vous êtes déçu, justement. Valérie Rossi, on sait qu'elle vous a accompagné. C'est l'une des femmes qui vous a accompagné pendant de nombreuses années en tant que collaboratrice parlementaire. Vous avez été surpris d'ailleurs qu'elle se présente sous le Nouveau Front Populaire.
J'ai été surpris parce que effectivement, elle avait envie d'être candidate, mais sous une autre étiquette. Qui était l'étiquette de Renaissance. Bon, elle a fait la campagne du président de la République, j'allais dire plus que moi encore, puisqu'elle était chargée de cette campagne. Je me rappelle des photos qu'elle voulait absolument solliciter lors des différents meetings du président. Elle n'a pas, au contraire de moi d'ailleurs, émis des remarques sur la loi immigration. J'ai parti des gens. Alors moi, je me suis fait engueuler par des gens de gauche qui m'ont dit c'est être un pleutre que de s'abstenir. Très bien, mais là je ne l'ai pas entendu non plus. J'avais entendu Marie-Jo, en revanche, là il n'y a pas de doute. Bon, voilà, donc c'est vrai que je suis surpris d'un seul coup, mais un coming out ça peut être brutal. Hein. J'ai été un peu déçu de la façon de faire.
Vous en avez reparlé avec elle?
Non, je n'en ai pas parlé. Je n'en ai pas parlé parce qu'on n'a pas eu de dialogue depuis. Voilà, on aura des dialogues. Et puis je veux surtout que les deux députés, et la députée en particulier du nord du département, continuent ce qui me semblait extrêmement important. Regardez ce qui se passe. On annonce que la suppression du train de nuit pendant tout l'automne.
Dès le 14 septembre, j'allais vous en parler, justement, le Paris-Briançon, plus de trajets quotidiens, un seul trajet par semaine.
Et encore pas,
et mal placé.
Pas toutes les semaines, et mal placé, c'est, parce que ça ne sert à pas grand-chose d'avoir un trajet par semaine qui n'est pas placé pour le week-end. On annonce en plus qu'il va y avoir des problèmes sur les trajets également pendant les vacances de Noël, de la mi-février et autres. Bon, enfin, moi, je voudrais entendre nos deux députés. Vous savez, la SNCF, le jour où j'ai annoncé que je ne me représentais pas, m'a supprimé de tous les mails d'alerte sur ce qui allait se passer.
Ça a dû les soulager,
Je suis persuadé. ils étaient contents, ils se disaient, on n'a plus l'emmerdeur. Mais je les invite toutes les deux à être des emmerdeuses. Parce que si elles ne sont pas demain des emmerdeuses qui se font respecter sur ce plan-là, on va retomber dans les mêmes travers. Cette envie irrépressible de la SNCF de vouloir absolument limiter ce train de nuit à la haute saison hivernale et encore...
Malgré les JO? Malgré les JO 2030?
Malgré les JO 2030, j'attends aussi qu'elles veuillent bien s'exprimer. Parce que j'ai écouté là encore ma députée dire que les JO 2024 Paris c'était génial, mais que les JO 2030 fallait voir. Je ne voudrais pas, parce que je suis quand même un provincial jusqu'au bout des doigts de pied, je n'ai jamais aimé Paris. D'ailleurs, quand les copains m'appellent en me disant il y a une réunion du Parti Radical, faut venir, je dis, je vous rappelle que je suis à l'hôtel. Parce que, au contraire de la plupart des députés, je n'ai pas ni acquis un appartement, ni tenté de faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, j'attends qu'elles s'expriment toutes les deux, parce qu'il y va de l'avenir d'un certain nombre d'infrastructures, je le dis clairement.
Il est faux, ces JO 2030. Plusieurs acteurs voient ça comme l'opportunité, un levier pour les problématiques, pour moi, notamment ferroviaires.
Pour moi, oui. Pour moi, parce que je le sais, à l'heure actuelle, il faut le savoir. Enfin, la SNCF continue à fermer des points de croisement, comme Luc Andiwa, qui font que quand le train de nuit est en retard, il est en retard de 2h, 3h, 5h. C'est l'opportunité d'arrêter ce démantèlement qu'ils sont en train de sournoisement, j'allais dire, on est en train sournoisement de défaire ce qu'a fait Jean Castex. Voilà. Et Jean Castex fait partie des gens en qui j'ai eu confiance, parce qu'il était mon premier ministre, vous allez me dire, c'est logique. Mais au-delà, parce que c'est quelqu'un qui, de manière authentique, a voulu sauver des territoires. Il l'a fait.
Il a défendu la ruralité.
Il a défendu la ruralité. Mmh. Quand il a été obligé de prendre des décisions s'agissant du Covid, ben, il m'a laissé carte blanche pour sauver tout ce qui était l'économie des stations. Et je crois qu'on a assez bien réussi parce que l'économie des stations, on pouvait s'attendre au pire. Ben, ça n'a pas été le cas. Voilà, je veux dire, des hommes de confiance avec lesquels on travaille normalement, qui vous téléphonent directement sans essayer d'avoir 12 intermédiaires pour vous expliquer que ce que vous faites n'est pas bien. C'est pour ça que ce qu'il faut surtout, c'est que les hommes politiques de haut rang ne soient jamais isolés, qu'ils continuent à avoir un numéro de téléphone accessible et qu'ils répondent à ce numéro de téléphone. Je crois que, bon, pour ce qui me concerne, d'ailleurs, les journalistes locaux peuvent en témoigner, j'ai jamais fermé ni changé de numéro parce que j'estimais que être dérangé, entre guillemets, d'une manière générale, c'était normal lorsqu'on avait accepté des charges publiques. Voilà, ça fait partie des choses. Et je vais vous dire, en tant que ministre, on est encore moins emmerdé que quand on est maire. Parce que quand on est maire, le téléphone sonnait beaucoup plus souvent, voire pour des choses horribles, du genre apprendre à des parents qui viennent d'y avoir une catastrophe et que leur gosse est au bord d'une route décédé. Quoi, voilà. Et ça, c'est qui est l'horreur absolue. Donc c'est pour ça que là aussi, le discours sur les collectivités locales, dès qu'il est repris de manière négative, je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas parce que je sais quelle est l'abnégation des gens qui, au quotidien, sont des élus locaux. Donc, voilà, et sur des gros dossiers comme celui du train de nuit, ben oui, je dis à aux deux députés.
Soyez des emmerdeuses.
Soyez chiantes. Mais il faut, vous savez, l'expression coller à la culotte. Eh bien, voilà, il faut coller à la culotte. Voilà, c'est comme quand quelqu'un vous doit de l'argent et que vous allez le livrer, ben, il faut qu'il paye au cul du camion. Ben, là, il faut leur coller à la culotte parce que sans ça, ils feront n'importe quoi.
Il faudra le faire.
Parce qu'ils veulent prouver absolument que ce qui a été fait avec Jean Castex était une connerie. Et d'ailleurs, ils ont arrêté le développement des nouveaux trains de nuit qui étaient prévus. Voilà. Donc, la preuve était faite que la province avait été un petit peu déclassée après son passage.
Joël Giraud, dernière question. Quel est votre meilleur souvenir, j'allais dire votre plus grande fierté en tant qu'ancien homme politique? Et quel est votre principal regret?
Écoutez, alors, des regrets, j'en ai pas énormément parce que j'ai une tendance à ne jamais regarder en arrière. Voilà. Et quand quelque chose me plaît pas, ben, je prends acte et voilà. Je ne dis pas que sournoisement, je n'essaye pas ensuite de faire en sorte que l'on modifie les choses. Bon, mais les plus grands, c'est difficile de répondre parce que j'ai consacré ma vie politique à faire un tas de trucs. Mais je dirais qu'au niveau local, la mairie, ça a été le redressement de cette commune qui n'avait plus que 1800 habitants, c'est l'Argentière. Voilà, je reste très attaché à ce que j'ai fait à l'Argentière. Je crois qu'il faut se rappeler, il n'y avait pas de maison de retraite, pas de stade d'eau vive, pas de tourisme, il n'y avait que dalle dans cette ville. Bon, maintenant, on a une économie qui vit, quoi, voilà, point à la ligne. Alors, on peut toujours faire mieux, mais bon, jusqu'à présent, il faut justement faire mieux pour prouver qu'on a fait mieux que son prédécesseur. Et je crois que c'est, au niveau national, c'est toute la politique de la montagne que j'ai impulsée et que je continuerai à impulser parce que vous nous demandiez tout à l'heure si c'est une retraite complète. Non, je vais continuer à aller dans des colloques parce que j'ai un rapport que j'ai pondu sur la montagne. Je pense que c'est pas complètement inintéressant. D'ailleurs, plusieurs personnes m'appellent en me demandant. Encore hier, on m'appelle en me disant il y a des grandes journées à Combloux au mois de janvier. Venez parce qu'il y a que vous qui savez, pouvez témoigner sur ce genre de choses. Enfin voilà. Donc je continuerai à faire du prosélytisme pro-montagne puisque chez moi le prosélytisme est forcément laïque. Je crois que la plus grande réussite, c'est d'avoir sorti effectivement la montagne d'un anonymat sur absolument tout. Et ça, dans un parcours qui a été celui du législateur, parce que la loi montagne numéro 2, voilà, c'était quand même très important. Et comme je l'ai continué en tant que ministre, en étant. Je pense qu'il n'y avait pas eu beaucoup de vrais ministres de la montagne. Voilà. J'étais ministre de la ruralité et de la montagne, même si le titre n'était pas. Il était dans le décret de description qu'avait signé le Premier ministre. Mais je pense que toute la politique montagnarde aurait été bien différente. Voilà, très modestement, si je n'avais pas été là, parce qu'il était difficile d'écouter. Vous savez, en France, le droit à la différence, c'est vrai pour les individus, pour les citoyens, c'est vrai pour les territoires, On est dans une nation qui est quand même un peu trop centrée sur Paris. Alors, le droit à la différence doit exister. Et si j'ai un seul héritage politique, c'est le droit à la différence sur tous les plans. Le plan individuel, comme le plan, j'allais dire, de la société ou le plan des territoires.
Et ben voilà, un beau message en tout cas pour finir. Merci beaucoup, Joël Giraud.
Merci à vous.
De nous avoir accueillis ce matin.